Donc, j'ai choisi comme titre l'éco-spiritualité au service de l'écologie. Éco-spiritualité, ce n'est pas un mot que vous trouverez dans l'encyclique, mais c'est plutôt un mot qui est utilisé par nos frères orthodoxes. Et je trouve qu'il parle de lui-même et puis qu'il donne vraiment le sens chrétien de l'écologie pour nous qui avons la foi chrétienne. On ne va pas faire un survol de l'encyclique, on ne va pas expliquer l'encyclique, on ne va pas dire chapitre par chapitre ce qu'il y a dedans, tout ça vous le trouverez ailleurs. C'est une petite somme cette encyclique, elle est absolument d'une densité extraordinaire et donc on pourrait passer toute l'année dessus. Bon, on a 1 heure et demie ou la journée, donc on va essayer de faire court. Vous me direz quand vous commencerez à vous ennuyer ou quand ce sera un petit peu trop. Peu trop, hein, faut me le dire tout simplement. Écologie intégrale. On parle beaucoup, beaucoup d'écologie intégrale, mais en fait, de quoi parle-t-on? On dit beaucoup, c'est devenu une espèce de leitmotiv, et ça c'est bien, tout est lié. Mais qu'est-ce que ça veut dire finalement? Et j'étais frappée de lire un article de nos évêques qui avaient conscience que finalement, les chrétiens sont à la traîne dans ces questions-là. On est sur le front de l'avortement, de l'euthanasie, sur le souci des pauvres, et tout ça c'est normal. Mais le souci de la création, là, beaucoup moins. Et il y a même un grand nombre de chrétiens à qui ça ne dit rien et qui n'en voient pas tellement l'intérêt. Donc il y a vraiment un énorme travail à accomplir, et nous d'abord à prendre conscience de ce que c'est qu'être chrétien finalement dans la globalité de notre foi et dans tous les aspects de notre foi. Nous sommes les seuls, les croyants, hein, à avoir la révélation, à savoir que tout ça n'est pas né du hasard, mais qu'il y a un créateur à l'origine, que la création est un acte d'amour et que tout ce qui nous entoure est un cadeau qui nous est fait. Et qu'est-ce qu'on fait de ce cadeau? Est-ce qu'on a conscience que c'est un cadeau, que c'est un acte d'amour? Voilà, on va surtout peut-être eh bien s'attacher à cet aspect-là. L'écologie, c'est un mot qui veut dire beaucoup de choses aujourd'hui, qui manque quand même de philosophie de l'être, de philosophie du vivant. Qu'est-ce que c'est que être? Qu'est-ce que c'est que le vivant, qu'est-ce que c'est qu'un être vivant? Est-ce qu'il y a une nature des êtres vivants, une nature humaine, une nature animale? Ça, c'est des questions qu'on ne se pose pas et ou qu'on. Excusez-moi, mais avec les chasseurs, ça fait un peu beaucoup de bruit. Écologie aujourd'hui, eh bien, on va parler des écolos. Et dire les écolos, c'est souvent un petit peu, je ne vais pas dire méprisant ou péjoratif, mais bon, c'est naïf. Hein? Les écolos, ça fait un petit peu sourire, les écolos. Et puis en plus, quand ce sont un peu les babacoules qui sont en première ligne, ça fait encore plus sourire. Moi, c'est ça qui m'a beaucoup interpellée quand on est arrivé ici, c'est de voir plein de jeunes, d'un certain style, hein, n'est-ce pas, parler d'écologie, parler du respect du vivant, etc., etc. Et je me disais, mais ça, c'est pas un langage qu'on entend dans l'Église. Ils sont, eux, les premiers conscients, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, heureusement qu'ils sont là, hein. Après, ils le vivent comme ils peuvent, hein. C'est autre chose. Mais nous, pourquoi on n'en parle pas? Bon, ça, c'était quand on est arrivé il y a 15 ans, hein. Alors, depuis, on a quand même, l'encyclique est sortie, c'est des questions auxquelles on commence à s'intéresser. Mais voilà, les écolos, ils sont là avant nous, alors que les premiers écolos, ça devrait être nous, finalement. Hein. Puis écologie, c'est devenu aussi une espèce d'idéologie, quand ce n'est pas un parti politique. Hein. Aujourd'hui, écolo, ça peut vouloir dire antispéciste, hein, vous savez ce que c'est? Ça peut vouloir. Pardon? Antispéciste, hein, c'est-à-dire ceux qui considèrent qu'il n'y a pas d'espèce humaine, d'espèce animale. Non, 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 on est tous des êtres vivants, tous pareils, tous égaux. Enfin, voilà, qu'est-ce que ça veut dire, égalité, voilà. Donc l'antispécisme, les véganes, hein, le véganisme aussi. Le véganisme avec tout... Il y a quelque chose de beau à l'intérieur de cette pensée, mais il y a aussi plein de dérives. Le malthusianisme aussi. Le malthusianisme, vous savez ce que c'est, hein? Eh bien, ça va être... il faut réguler vraiment la démographie. On est beaucoup trop nombreux. Il y a des jeunes aujourd'hui qui ne veulent pas avoir d'enfants, hein, parce qu'on est trop nombreux. Ou qui vous vont dire, moi, je ne veux pas avoir d'enfants parce que je ne veux pas faire des pollueurs. Hein? Voilà, c'est des discours qu'on entend aujourd'hui. Donc, voilà tout ce qu'il peut y avoir derrière ce mot écologie ou écolo. Et il y a aussi ce fait qu'on ne va pas jusqu'au bout, on est pour le vivant, mais on n'est pas pour le vivant à tout point de vue. Les écolos, souvent, eh bien, sont pas du tout contraires à l'avortement, à l'euthanasie, toutes ces questions-là. Et alors, où est-ce qu'on en est du respect du vivant? Qu'est-ce que c'est que respecter le vivant? Jusqu'où on le respecte? Enfin, voilà, c'est des questions quand même qu'on devrait se poser. Il y a quand même beaucoup d'incohérences, hein, dans cette pensée écolo aujourd'hui. Et même José Bové, hein, est quand même un des premiers à le dire. Il a dit, mais enfin, respecter la terre, c'est respecter l'homme, et donc c'est respecter l'enfant à naître, c'est respecter le vieillard. Hein? Voilà, tout à fait. José Bové, oui, oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc, parler d'écologie, c'est trop peu, c'est un peu coloré de vision politique ou anthropologique qui n'a rien à voir avec la pensée chrétienne. Donc, ce qu'il faut, c'est revenir à la pensée chrétienne. Alors, parler d'écologie intégrale, bon, ça déjà, ça élargit le sujet, ça l'éclaire, mais je suis frappée aussi de voir que tout le monde parle d'écologie intégrale et ça n'a rien à voir avec l'écologie intégrale. Hein? Alors, on parle d'écologie intégrale, mais en fait, on parle de quoi? Eh bien, de respect de la terre. Et ce n'est pas que ça, l'écologie intégrale. Donc, parler d'éco-spiritualité, ça va poser la question de l'écologie à la fois dans ses racines et dans son devenir. Et voilà ce qui nous intéresse, nous, en tant que chrétiens. Parce qu'à la racine de la crise écologique, qu'est-ce qu'il y a? Une crise spirituelle. Et le pape François en parle. Il s'agit d'une crise spirituelle avant d'être... bien les conséquences de cette crise spirituelle, ce qui se passe aujourd'hui, ne sont que des conséquences. Et j'ai été frappée aussi de lire des articles sur des non-chrétiens qui attendent une parole de l'Église là-dessus, une parole forte. Bien qu'on se moque bien souvent des chrétiens et des cathos en particulier, bien qu'on présente un petit peu la religion comme une sous-culture, hein, le pape François le dit lui-même, ben finalement, quand même, on attend une parole forte parce que l'Église est un repère. Il n'y a plus tellement de repères, finalement, hein, donc l'Église reste un repère, on attend une parole forte. Donc cette parole forte, elle va passer par nous. Nos évêques, ils font ce qu'ils peuvent, hein, mais ils ont déjà tellement de soucis sur le dos qu'ils ont perdu un peu de crédibilité. Donc l'institution a perdu de la crédibilité. Donc l'Église, ce n'est pas l'institution. L'Église, c'est vous, c'est nous. Donc c'est à nous de porter le vrai message de ce que c'est que l'écologie quand on est chrétien et de ce que c'est que respecter le vivant. Donc je vous ai fait un petit plan. Hein, donc ça, c'était un prologue. Donc un chapitre qui va s'appeler Apocalypse. Alors ça fait peur. Hein. Ça fait peur, alors que ça devrait, au contraire, finalement nous réjouir, quelque part. Apocalypse, ça veut dire quoi? Ça veut dire révélation, ça ne veut pas dire catastrophe. Nous, quand on parle d'apocalypse, on dit catastrophe. Alors, c'est complètement faux. Apocalypse, ça veut dire révélation. Cette crise, qu'on peut présenter comme une crise apocalyptique, parce que vraiment, il y a trop de choses qui nous font peur aujourd'hui, et c'est la peur qui nous fait réagir, hein, hein, c'est la peur. C'est pas le respect de ce que Dieu a fait. Eh bien, cette crise apocalyptique, elle est la révélation, non pas de la fin du monde, hein, tout le monde dit, ça y est, c'est la fin du monde, hein, les collapsologues, c'est ce qu'ils disent, les collapsologues, hein, mais c'est la fin d'un monde. Et ça, je pense que vraiment, c'est important qu'on en soit conscient et qu'on fasse vraiment cette distinction entre la fin du monde et la fin d'un monde. Parce que la fin d'un monde, bah, c'est la fin d'un monde, mais ça veut dire qu'il y a un nouveau monde à préparer, à vivre et à réaliser. Tout n'est pas terminé, au contraire, tout commence. Et c'est aussi ce que le pape François François va dire. Il dit donc au numéro 207, notre destin commun nous invite à un nouveau commencement. Donc c'est une invitation à la créativité, hein. C'est pas à la désespérance et à baisser les bras. Au contraire, ça veut dire relevez vos manches et mettez-vous au travail. Parce qu'il y a beaucoup à faire et que ça va être passionnant. Donc c'est la révélation de la fin d'un monde, c'est la révélation de l'état, de la création et de l'état de l'humanité. Tout est malade. Moi j'étais très frappée quand même de voir que le pape François, à plusieurs reprises, montre qu'il y a comme un état pathologique, eh bien, de la création. Et nous faisons partie de la création. La création, c'est la Terre, et c'est vous, c'est nous, c'est tout ce qui vit. Donc c'est pour ça que j'ai fait un petit sous-chapitre, un état pathologique. Il dit, alors vous verrez les numéros 223 à 226, par exemple, l'homme est fatigué, tourmenté, déséquilibré, anxieux, agressif, boulimique, enfin, tout ça, c'est un peu de la pathologie quand même. Hein. Et malade pourquoi ? Et malade de quoi ? Il faut quand même qu'on se pose la question. Et il va dire, ben, c'est un problème d'identité. Ça, c'est très intéressant. C'est un problème d'identité. Pas François dit, l'homme est malade pourquoi ? Ben, parce qu'il ne sait plus qui il est. Il ne sait plus ce qu'il est. C'est une question d'identité. Alors, vous prendrez vous regarderez les numéros 203, 144, 232, et puis peut-être d'autres aussi.
Tu peux redire s'il te plaît les numéros ?
Les numéros 203, 144, 232. La question qu'il faut se poser, c'est quelle conception l'homme a de lui-même ? Est-ce que l'homme est un objet de consommation ? C'est un peu quand même, on a l'impression qu'on se définit de cette manière-là aujourd'hui. Il suffit de se promener dans la rue, de voir toutes les affiches. Il suffit d'écouter la télévision, la radio, etc. Et le pape François dit, sans identité, l'homme ne peut pas s'orienter. Donc l'homme est perdu. S'il ne sait plus qui il est perdu. Il n'a pas de but. Il n'a pas de passé, il n'a pas d'origine, il n'a pas de but, et il n'a pas non plus de but, ni pour le moment, ni de but ultime. Donc il est comme une toupie, hein, qui tourne au gré des invitations à consommer en particulier. Il va parler d'identité. Ben, l'identité, ça va être au niveau spirituel, au niveau philosophique, hein, métaphysique, mais ça va être aussi au niveau culturel. Ça, vous verrez, numéro 143, c'est assez intéressant. Et le pape François parle de préservation de nos cultures, de nos identités culturelles, de nos patrimoines. Ça va très très loin, en fait. Très très loin, cette question de l'écologie. C'est le respect, en fait. Le respect de ce qui est. Et le respect de ce qui nous façonne. En fait, donc sans identité, eh bien nous vivons une espèce de désert intérieur. Et les déserts extérieurs ne sont que la conséquence de nos cœurs qui sont vides, qui sont secs, de nos vies qui n'ont pas de sens. Donc ça, vous verrez ça au niveau 217. Et je me disais, on peut se poser aussi la question de toutes les lois de bioéthique, hein, là, qui sortent, qui viennent de sortir, qui seront confirmées ou non. Mais la question de l'identité, elle va être de plus en plus compliquée. De plus en plus compliquée. Hein. Sans identité, l'homme ne peut pas s'orienter, dit le pape François. La conséquence de ça, c'est quoi ? Eh bien, c'est la consommation. Parce qu'il y a un vide, on va le remplir. On va le remplir, donc on va acheter, on va manger, on va avoir, on va posséder, voilà. Voilà, on va se remplir. Consommation qui va entraîner, bah mais ça je ne l'ai pas. Frustration. Alors vite, il faut que j'aille l'avoir. Ah mais il y a encore autre chose que je n'ai pas. Voilà. Et c'est cette espèce de cercle infernal qui, de consommation en frustration, nous entraîne dans une espèce de vertige où nous nous perdons. Donc ça crée une angoisse. Hein. Le pape François dit que nous sommes des angoissés. Une angoissée qui va une angoisse qui naît du manque d'identité et qui va entraîner eh bien, une attitude addictive de consommation, de compensation par l'avoir. En fait, est-ce que ce n'est pas un mensonge? Est-ce que consommer rend libre? Numéro 203. Question. Vous verrez, il y a plein de petites questions après, pour vous aurez un petit peu de travail. Et le pape dit, mais est-ce qu'on manque pas un peu de réflexion quand même dans tout ça? Il est très simple, hein? Il est très simple. Alors quand on commence l'encyclique, on se dit, oh là, ça va être compliqué. Non, c'est pas si compliqué que ça. Mais il faut s'y mettre. Alors on va s'y mettre ensemble, hein? Voilà. Est-ce qu'on pourrait pas réfléchir un tout petit peu, dit le pape François? Est-ce que c'est juste de vivre de cette manière-là? Alors, juste, ça veut dire, est-ce que c'est ajusté? Et ajusté à quoi? Question. À quoi je m'ajuste dans mes comportements? Et c'est une maladie qui mène à la mort. C'est pas comme celle de Lazare, hein, où Jésus dit, non, cette maladie ne mène pas à la mort, ne vous inquiétez pas, ça fait 4 jours qu'il pourrit, mais c'est pas grave. Hein. Tandis que ça, c'est une maladie qui mène à la mort. Hein. Et il parle, comme en parlait Jean-Paul II, vous vous rappelez, de culture de mort. C'est le numéro 213. Nous vivons dans une culture de mort parce que tout ce que nous faisons et pensons va vers la mort. Cette maladie, cette boulimie, eh bien finalement, dit le pape François, ça nous ôte le sentiment de notre propre dignité. Si nous sentons réduits à des objets de consommation, hein, à des esclaves de l'avoir, eh bien, où est notre dignité? Est-ce que nous pouvons encore nous sentir dignes? Les numéros 207, 211, 212. Qu'est-ce qui fonde notre dignité? Question. Alors, ce que j'ai appelé le péché racine, vous ne trouverez pas dans le pape François, mais ça m'a semblé être parlant. Le péché racine, parce que le nom de cette maladie, c'est quoi? Finalement, c'est le péché. Le péché. Et quand le pape François dit que tout est lié, numéro 66, ben, il parle de relation. Si tout est lié, c'est qu'il s'agit de relation. Quelle relation? Tout est lié parce que tout est en relation. Et le récit de la Genèse est passionnant. C'est là qu'on se rend compte que Dieu a mis toutes les créatures en relation les unes avec les autres. Et pourtant, il sépare. Vous vous rappelez, il y a 6 jours de création et à chaque fois, Dieu sépare. Mais il sépare et en même temps, il relie. Alors, vous pouvez prendre le récit de la Genèse, chapitre 1, 2. Si vous avez vos Bibles avec vous, sinon c'est pas grave. Je vous donnerai les références et vous irez les retrouver. Oui? Oui?
Tout à l'heure, tu parlais du fait de vivre dans une culture de mort.
Oui.
C'est quelle référence avez-vous aussi?
La 213. 213.
Je l'ai ouvert, et 213, il parle des milieux éducatifs et de la famille.
Alors, c'est pas ça. Écoute, 200, je, non, alors je me suis trompée. Je sais pas. Je rechercherai. Écoute, il faudra que je retrouve. Oui. Mais merci à Marie-Hélène. Comme ça, je peux corriger. Donc, tout est lié. Donc, parce que tout est en relation. Et pourquoi tout est en relation? Alors, il y a un chapitre passionnant du pape François. C'est tout à la fin. Il parle de la Trinité. Alors, c'est drôle, parce qu'il s'adresse à tous les hommes de bonne volonté, tous les non-croyants. Nicolas Hulot a crié de joie en lisant l'encyclique. C'est quand même hyper chrétien. Hein. Et ça se termine sur un chapitre sur la Trinité. Mais tout est relié, mais parce que tout est créé par Dieu qui est Trinité. Et alors, ça, vous lirez le chapitre 238. La création, elle est trinitaire. Elle est trinitaire parce que nous sommes créés par la Trinité. Et il invite d'ailleurs à chercher dans l'être vivant, de tout ce qui est vivant, la marque de la Trinité. Donc ça aussi, ça peut être vraiment une réflexion, une contemplation. Qu'est-ce qui me parle du Père? Qu'est-ce qui me parle de l'Esprit? Qu'est-ce qui me parle du Fils dans tout ce qui est vivant? Intéressant, hein? Hyper intéressant. Alors, ce que j'ai donné, c'est 238, hein, la référence. C'est tout à la fin. Alors, le péché, c'est quoi? Le péché fondamental, ce que j'ai appelé le péché racine. Le péché originel. Mais c'est un mot qui ne parle plus beaucoup, on n'aime pas trop le péché originel. L'orgueil, on n'aime pas non plus, on ne parle plus... Non, alors, je vais employer d'autres mots. Hein. On se rend bien compte qu'il faut employer d'autres mots aujourd'hui. Donc, le péché racine, ça va nous parler. Hein. La racine de chien dent, on sait ce que c'est. Hein. Ok, d'accord. Ça va partout et c'est indéracinable quelque part. Hein. C'est l'horreur absolue. Eh bien, ce péché racine, c'est le péché finalement de la rupture dans la relation à Dieu et dans la rupture à toutes les relations au nom de l'autoréférentialité.
Waouh!
Wow. Oh, il est trop long? Mais on va faire simple. Moi. Ça va, ça, hein? Ça, c'est plus simple.
Tout seul, des enfants dedans,
c'est ça, c'est exactement ça. Et moi, hein?
Oui, des enfants, des racines, ça, c'est quand
même Numéro 66. C'est la rupture de l'harmonie. Parce que quand Dieu crée, tout ce qu'il crée, c'est magnifique ce refrain. Et Dieu vit que cela était bon. Et il faut savoir qu'en hébreu, le mot bon veut dire aussi beau. C'est la même chose. Beau et bon. Hein. Et Dieu vit que cela était beau et bon. Donc la rupture, elle est dans l'harmonie de cette beauté, de cette bonté originelle. Et il y a deux paroles que je trouve terribles, moi, dans ces chapitres de la Genèse. C'est une réflexion personnelle, hein, qui pour moi explique la crise écologique. Ces deux paroles, c'est « Maudit soit le sol à cause de toi », Genèse 3, 17, et « Il n'est pas bon que l'homme soit seul », Genèse 2, 18. Je trouve que ces deux paroles, elles sont très éclairantes sur le péché racine et sur les conséquences de ce péché. Donc l'autoréférentialité, pas ce péché racine, numéro 208, je ne sais pas si je vous ai donné la référence, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis ma propre source, je m'auto-définis, je n'ai besoin de personne. Hein. Qu'est-ce que tu dis, Fanny?
J'ai dit en Harley
Davidson. Harley Davidson, c'est ça? Exactement ça. Hein. Et je décide seul de ce qui est bien et mal. C'est quoi l'histoire de l'art de la connaissance du bien et du mal? Eh bien, c'est que je ne supporte pas qu'on m'impose des lois. Je vais moi-même les créer. Je vais décider de ce qui est bien et de ce qui est mal. C'est ça, tout simplement. Hein. Je me fais Dieu. Tout simplement, hein, sans complexe. C'est ça, le péché originel. Je me fais Dieu. Et donc, cette autoréférentialité, si je suis tout seul et si je décide tout seul, je n'ai rien à faire des lois divines qui sont inscrites dans le vivant. Donc, vous imaginez tout de suite les conséquences de cette façon de se définir, hein, et d'envisager tout ce qui nous entoure. Il s'agit de l'environnement, il s'agit de la nature humaine. Les lois inscrites dans la nature, j'en fais ce que je veux. Les lois inscrites dans la nature humaine, j'en fais ce que je veux. Je les change, n'est-ce pas? Les lois de bioéthique, je change. Voilà, je change. Dans l'environnement, alors... Je ne voudrais pas être trop longue, mais j'ai plein des références à Pierre Rabhi, hein, qui sont très intéressantes, justement, dans ce détournement des lois qui sont inscrites dans le sol, par exemple, ou dans l'être vivant. Par exemple, moi, je prends notre exemple à nous, parce que je connais que ça, mais nos chèvres, nous leur laissons leurs cornes, par exemple, hein, parce que c'est une loi divine que la chèvre a des cornes. Et ce qui est très frappant, c'est que dans tous les journaux spécialisés aujourd'hui, Il y a un grand journal qui s'appelle La Chèvre, n'est-ce pas? Eh bien, il n'y a plus de cornes. Même sur les petits dessins, il n'y a plus de cornes. Quand la technicienne m'apporte les carnets de Nisba, je vois un dessin de chèvre, il n'y a pas de cornes. Devant elle, je dessine des cornes. Pourquoi? Et parce que c'est une loi de Dieu inscrite. Le cycle de la fécondité est inscrit dans l'animal. Alors aujourd'hui, on désaisonne, hein, ceux qui sont d'agriculture le savent, c'est-à-dire que on va déclencher ce qu'on appelle un protocole lumineux, on va éclairer, de façon à déclencher le cycle, mettre des petites hormones en plus, hein, pour que les chèvres qui ont un cycle très très précis, non, ne sont pas en chaleur tout le temps, eh bien, aient des chaleurs qui soient déclenchées à un autre moment, de façon à pouvoir avoir des chevreuils, pouvoir avoir du lait tout le temps. Ceux qui vivent du lait, eh bien, s'ils font comme nous, ils ne vivent pas. Parce que pendant 3 mois, il n'y a pas de lait. Vous voyez, hein? Donc on peut comprendre au nom de la survie de la famille qu'on fonctionne comme ça. N'empêche que on méprise une loi divine inscrite dans l'animal. Hein? Bon, c'est un petit exemple parce que c'est celui que je connais. Mais voilà où ça nous mène. Donc ce mépris des lois, alors que le Seigneur nous a demandé de cultiver et de garder. Hein? C'est au chapitre de 15. Voilà, Dieu prit l'homme, l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Il ne se tournait pas les pouces, hein? De 15, pour le cultiver et le garder. Qu'est-ce que ça veut dire? Le jardin, c'est la création. Le cultiver, ça veut dire quoi? Le garder, ça veut dire quoi? Hein? Donc aujourd'hui, on va dire que finalement, il n'y a pas de nature, que tout est culture. C'est-à-dire que l'homme fait tout. Hein? Il n'y a pas de nature, c'est facile. Ça, je décide, moi, de ce qui est bon ou de ce qui ne l'est pas. La théologie orthodoxe nous apprend que Dieu, en créant par sa parole, par le logos, hein, le logos, il inscrit dans chaque être vivant un petit logos, c'est-à-dire, et il donne aussi à cet être vivant une énergie ancrée. Donc c'est un langage que l'on n'entend pas trop, évidemment, dans notre théologie latine, mais qui est très intéressant. Si nous sommes créés par Dieu à l'image de Dieu, nous avons une empreinte. Il n'y a pas que la laine de vie, hein, il y a l'empreinte trinitaire, dit le pape François. Et puis, il y a, voilà, ce petit logos, cette petite parole sur chaque être vivant. C'est-à-dire, toi, tu es homme, toi, tu es femme, toi, tu es pissenlit, toi, tu es chèvre, toi, tu es chat, etc., etc. Il y a une pensée de Dieu sur chaque être vivant qui définit son identité. Son identité. On a vu, hein, que le problème d'identité nous rend malades, ne pas nous savoir qui nous sommes, alors que ça crée une angoisse, on vient de le voir. Donc nous, en détournant toutes ces lois, eh bien nous méprisons cette petite parole de Dieu, ce petit projet divin qui est inscrit dans chaque être vivant. Alors non seulement Dieu, avec ce petit logos, mais un projet dans l'être, mais il donne ce que nos frères orthodoxes appellent les énergies incréées, c'est-à-dire il y a une énergie divine qui est donnée à chaque être vivant pour aller dans le sens de ce projet, pour le réaliser, pour devenir ce qu'il est en puissance. C'est quand même très intéressant tout ça. Je vais vite quand même, on ne va pas passer la journée là-dessus, mais c'est quand même très intéressant. Donc si le péché racine, c'est l'auto-référentialité, rappelons-nous cette parole de Dieu en Genèse 2,18, où Dieu, comme si tout d'un coup il présentait les choses, n'est-ce pas? Il dit tout de suite, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme a une source et l'homme est fait pour une vie commune. C'est très intéressant ça aussi. Hein, et donc je trouve que ces deux paroles, elles sont très éclairantes. Parce que l'homme se veut tout seul. Il n'y a pas que le petit enfant de 2 ans qui se veut tout seul. Hein. Nous, nous voulons tout seul, sans dépendre de qui que ce soit et de quoi que ce soit. Tout ce qui nous définit dans notre nature, nous ne le supportons plus. Nous ne le supportons plus. L'homme se veut seul et donc rompt toute relation, finalement. Et c'est son péché qui dit du mal de toute la création. C'est le péché de l'homme, c'est pas Dieu qui dit du mal de sa création. Dieu n'a dit que du bien. C'est beau, c'est bon, c'est bien. C'est le péché de l'homme qui dit du mal de toute la création. Et le péché de l'homme qui est une malédiction. En décidant des lois, eh bien je décide que ce que Dieu a fait n'est pas beau et n'est pas bon. Donc je dis une mauvaise parole, non seulement sur Dieu, mais sur tout ce qui est. Et du coup, la création maudite par le péché de l'homme est en souffrance, marche vers la mort en gémissant, c'est ce que dit saint Paul au chapitre 8 de l'Épître aux Romains, 8, 20, il me semble que c'est 20, oui. Hein, la création, elle est en souffrance, en gémissement, en travail d'enfantement. Elle doit devenir ce qu'elle est, mais l'homme est sans cesse à lui mettre des bâtons dans les roues, à mettre des obstacles pour qu'elle n'aille pas vers son accomplissement. Romains 8, 20. La rupture dans ces relations... Elle est parlante. Si on reprend le livre, le récit du péché originel, c'est le chapitre 3 hein, de la Genèse. Rupture de la relation avec Dieu et avec soi-même. Il y a un ange, quand Dieu chasse l'homme, enfin il se chasse tout seul, hein, parce qu'il n'en a rien à faire de tout ce que Dieu a préparé pour lui. Il se chasse tout seul. Mais bon, c'est un mythe, hein, donc pour bien qu'on comprenne, le texte, donc Dieu met un ange avec une épée qui barre le chemin, donc l'homme ne pourra plus retourner dans le jardin. Il ne pourra plus retourner dans le jardin. Le jardin, c'est quoi? Le jardin, c'est la création, mais c'est aussi le lieu de l'intimité avec Dieu. Rappelez-vous, il se promenait à la brise du soir pour converser avec Adam dans ce jardin. C'est le lieu de l'intimité, c'est le lieu de la relation d'amour, la relation amoureuse avec Dieu. Et puis ce jardin intérieur, eh bien, c'est aussi encore c'est nos frères juifs qui aiment cette idée que le jardin, c'est aussi notre cœur, c'est le jardin intérieur. Et quand on lit le Cantique des Cantiques, eh bien, l'histoire du jardin, elle est reprise dans le Cantique comme le cœur de l'épouse et de la bien-aimée. Il n'y en a qu'un seul qui peut descendre dans ce cœur, c'est le bien-aimé. Ma fiancée est un jardin clos, une source scellée. Il n'y a que moi qui puis y descendre. Hein. Donc, cette idée du jardin, elle est aussi très intéressante au point de vue biblique. Donc, rupture de la relation, de l'intimité, de la communion avec Dieu, et rupture de la relation avec soi-même, puisque c'est aussi l'image du jardin intérieur. L'ange avec son épée. La relation avec la nature, eh bien, c'est que cette terre qui devait produire que des arbres et des fruits désirables, bons à manger, etc., elle se met à pousser des chardons et des épines. Donc il va falloir entrer en conflit avec ces chardons et ces épines si on veut faire pousser quelque chose. Hein? Rupture de la relation avec la terre dont je suis issue parce que Dieu a pris la terre et m'a modelé de cette terre. La Adama, quand on dit en hébreu, c'est pourquoi le premier homme s'appelle Adam, parce qu'il est tiré de la terre. Et donc, ça dit quoi le fait que ce mythe qui dit que Dieu modèle la terre, ben ça veut dire que nous sommes issus de la même chose, nous sommes faits de la même chose. Et c'est Hubert Reeve, l'astrophysicien, qui dit que nous sommes de la poussière d'étoiles, nous sommes faits des mêmes atomes. Il y a les mêmes atomes partout. Nous ne sommes pas différents à ce niveau-là, les uns des autres, ni même du minéral, ni du végétal. C'est absolument incroyable ça. On n'est pas là-dedans. On n'est pas là-dedans. Non, on est tout seul, on arrive, je ne sais pas, on vit comme des extraterrestres. Des personnes hors sol, dit Pierre Rabhi. J'aime beaucoup cette expression. Nous vivons hors sol et nous sommes des êtres hors sol. Complètement déconnectés au moment où la 5G va arriver. Hein? D'accord? Donc la rupture avec la nature. La rupture avec autrui. C'est-à-dire la première qui est là, bah, c'est Ève. cette rupture, elle est signifiée par le fait que tout d'un coup, eh bien, il se voit nu. Et cette nudité, elle entraîne la peur. Ah, je suis nu, j'ai peur. Mais l'autre est nu, il me fait peur. Le partage, qui est normalement un partage fraternel d'amour, eh bien, devient un partage de mort, parce que ce fruit, il donne la mort. Intéressant, ça aussi. Hein? Avec nos histoires de distanciation, hein? Ça nous parle aussi. Hein? Partage mortel du fruit fait pour nous donner la vie. Intéressant, ça aussi. Et puis, eh bien, ce que dit Dieu, eh bien, ton mari te dominera et toi, tu le convoiteras. C'est chapitre 3, verset 16.
Sœur Marie,
oui?
Ça veut dire quoi? Partage mortel du fruit fait pour nous donner la vie.
Parce que ce que Dieu a créé est fait pour nous donner la vie.
Oui.
Hein? Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a des arbres dans le jardin qui portent des fruits bons, beaux et désirables, agréables à manger. Et du coup, elle va attraper le fruit. Mais celui-là, il est défendu. Mais tous les autres sont bons à manger. Hein? Tout ce qui est là est bon à manger. Donc, c'est fait pour la vie. Et à partir du moment où Ève s'en empare, hein, et c'est-à-dire décide toute seule, hein, prend ce qui en fait ce qui appartient à Dieu. Il faudrait faire toute une journée sur ce chapitre, donc on ne peut pas, on n'a pas le temps. Mais c'est passionnant, 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 passionnant. Et bien du coup, d'avoir partagé ce fruit défendu donne la mort. C'est en ce sens-là. D'accord ? Hein ? Ok. Et donc, en quittant le jardin, en quittant le lieu de la communion, le lieu de la relation, de toutes les relations, eh bien, l'homme marche vers un monde qui va être obligé de se créer lui-même. Il n'accepte pas celui qui a été fait pour lui. Et selon ses propres lois, ça va être quoi ses lois? Ça va être ses pulsions, ça va être ses peurs. Les pulsions, les peurs, les avidités, voilà ce qui va nous conduire désormais. Moi, une chose qui me frappe à force de faire de l'accompagnement de jeunes, c'est de me rendre compte à quel point ils veulent tout savoir, tout voir, tout essayer, tout expérimenter, tout vivre. Tout, 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 tout. Il y a une avidité complètement démesurée. Sinon, la frustration, elle est là. Ça dit quelque chose d'un vide, d'un désert intérieur, en tout cas. Donc les relations sont blessées, sont altérées. Les relations qui sont fondamentales, hein, les relations qui sont fondatrices de vie, parce que nous avons tous, tout est lié, c'est que nous avons tous besoin les uns des autres. Et donc le péché va engendrer une blessure dans la création. Hein. Dans Genèse chapitre 4, verset 11, avec l'histoire de Caïn et Abel, où Dieu dit que le sang d'Abel, la terre est gorgée du sang d'Abel, et que c'est la terre qui crie. Hein. C'est Abel qui est tué, et c'est la terre qui crie. Intéressant, ça aussi. Intéressant. Il faudra le sang du Christ, le sang offert, le sang répandu du Christ, hein, pour venir comme mettre un baume sur cette terre. Moi, j'aime beaucoup l'expression de Saint Bonaventure qui dit que le Christ est le grand balsamier. Il vient répandre un baume balsamier, hein, sur les plaies de l'homme et de la terre. Donc, troisième grand chapitre que j'ai appelé Métanoïa. Métanoïa, parce que le mot conversion, on n'aime pas trop non plus. Alors, il y a un autre mot qui veut dire la même chose. Donc, cette rupture originelle, ben, finalement, elle en appelle une autre, que le pape François va appeler la conversion. Hein. Numéro 208. Numéro 208. Il dit, l'humanité a besoin de changer. Numéro 207. Bon, tout le monde le dit. Les hommes politiques parlent beaucoup de changement. Hein. À chaque fois qu'il y a une élection, il va être question de changement. Mais il n'est peut-être pas vraiment question du changement fondamental. Hein? Parce qu'on n'a pas nommé la rupture. Moi, je pense. Donc, c'est quoi la conversion? Eh bien, c'est le retour. Il faut revenir au jardin. Il faut revenir au Père dont on s'est séparé. Et il n'y a qu'un seul chemin pour ce retour. Hein? Je suis le chemin, dit le Christ. Je suis le chemin. La vérité et la vie. Parce que là, nous sommes dans l'erreur et nous marchons vers la mort. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, en quoi elle consiste, cette métanoïa, cette conversion? Eh bien, trois paragraphes. Une prise de conscience d'abord, un changement de paradigme ensuite, et un changement de style de vie. Alors, premièrement, une prise de conscience. Parce que s'il n'y a pas de prise de conscience, il n'y aura pas de conversion, évidemment. Au numéro 202. Eh bien, la première prise de conscience, c'est que je ne suis pas tout seul. Je ne me suis pas fait tout seul. Je ne suis pas ma source. Donc, c'est l'acceptation d'une transcendance. Et ça, c'est hyper compliqué aujourd'hui. Hyper compliqué. Accepter d'être transcendé par un autre plus grand que moi. Qui est ma source? D'où je viens? C'est accepter les lois divines qui sont inscrites dans le vivant. Accepter les lois. Cesser de chercher sans cesse à les contourner. Et avoir conscience que nous sommes sans cesse en train de les contourner, de les dévier, de les changer. Nous nous faisons Dieu. C'est prométhéen ce qui est en train de se passer. Nous nous faisons Dieu. Et donc, accepter le projet de Dieu, ce petit logos dont je vous parlais, qui est inscrit dans chaque être vivant. Et ça va être permettre à ce petit logos de se développer dans chaque être vivant. C'est pour ça que quand Pierre Rabhi parle d'agroécologie, hein, il s'intéresse à la façon dont la Terre fonctionne. Et on va aller dans le sens de la Terre, alors que nous sommes toujours entrés en conflit. On va arracher le chien d'or, on va arracher toutes les mauvaises herbes, qui sont ce qu'on appelle des adventices. Hein, ce n'est pas forcément des mauvaises herbes. Et peut-être qu'il faut qu'on fasse avec. Et elles ont peut-être quelque chose à nous dire. Pourquoi elles sont là? Question. Donc ça, c'est la première prise de conscience. La deuxième, c'est que je ne suis pas seule au monde. Nul n'est une île, c'est le titre d'un livre d'un cistercien célèbre, Thomas Merton. Nul n'est une île. Je ne suis pas tout seul, je suis créé en même temps que les animaux. Sixième jour de la création. Sixième jour, Dieu crée les animaux et il crée l'homme. Il ne passe pas à un autre jour. Alors, les antispécistes vont dire, oui, l'homme n'est qu'un animal. Alors, bon, avec saint Thomas, on dira que l'homme est un animal raisonnable.
Saint Thomas
d'Aquin, l'homme est un animal raisonnable. Et l'homme est un animal spirituel. Donc je suis créée en même temps que les animaux, et je suis créée en vue de la vie commune. Immédiatement, Dieu va créer Ève, et va leur demander d'être fécond tout de suite, de transmettre la vie tout de suite, de créer une famille universelle. Alors, ce qui m'a frappé, c'est le terme de maison commune que le pape François utilise. Ça ne vous a pas frappé? Parler de la maison commune, parler de la terre comme la maison commune. Et quand on lit le texte de la Genèse, ça commence par Bereshit. Bereshit, c'est-à-dire au commencement, Dieu crée. Bereshit, donc la première lettre, c'est le bet en hébreu. Le bet, on dessine comme ça. Quelque chose qui est presque enfermé, il y a juste une fenêtre, hein. C'est la maison. Bet lechem, bet ani bet esta. Hein, c'est la maison. C'est intéressant ça. La Terre, c'est la maison. L'univers, c'est la maison. Alors qu'on est toujours en train de découvrir des milliards de galaxies. On n'a jamais fini, on n'aura jamais fini. Parce que Dieu nous dépasse. Mais n'empêche que c'est une maison. Une maison commune. Je ne suis pas tout seul dans cette maison. Et une maison, c'est quoi? Une maison, c'est un lieu de vie. Une maison, c'est un lieu qui nous protège. C'est un lieu clos. c'est pas un espace infini tout le temps ouvert. C'est intéressant cette notion de maison commune. Et donc le pape François dit, eh bien, ayons une conscience amoureuse de la connexion avec les autres créatures, avec, nous sommes créés en même temps que les animaux, avoir une conscience amoureuse, 220, numéro 220. Et puis troisièmement, eh bien, prise de conscience que le péché, cette autoréférentialité nous rend malades. Qu'elle rend malade la terre, qu'elle rend malade les frères et qu'elle attriste Dieu. Alors, c'est toute l'histoire de Noé. Le péché grandit tellement sur la terre que le Seigneur, il en a marre, il veut tout détruire. Vous lirez ça au chapitre 6, verset 11, 13, hein, voilà. Ça suffit. Voilà, maintenant, je vais tout détruire. Tout ce que j'ai créé, je vais le détruire parce que c'en est trop. Donc, l'histoire du déluge vient après. Et le pape François dit que le consumérisme, hein, je suis tout seul, donc j'ai le cœur vide, donc je vais le remplir avec n'importe quoi, donc je vais consommer, avoir, posséder, etc. Le consumérisme, il dit, me distrait le cœur et m'empêche d'évaluer chaque chose et chaque moment. Ça, c'est très intéressant. Donc le cœur, il est déjà vide, hein, mais en plus, je m'en distrais. Je me divertis, hein, pour employer un terme pascalien, je me divertis dans la consommation. Et du coup, je suis toujours à vouloir attraper les choses, toujours en dehors de moi, et incapable de me réjouir de ce qui est là, parce que je n'ai jamais assez. Donc le pape François dit, incapable d'évaluer, d'apprécier à sa juste valeur tout ce qui est, chaque chose, chaque moment. Donc on va voir la question du temps qui intervient. Donc la prise de conscience de tout cela, elle doit faire naître le désir de changer. Parce que le désir de changer, il ne va pas venir comme ça. La peur, oui, nous dit, tiens, il faut changer quelque chose quand même. Parce que là, on va tous à la catastrophe. Hein. Elle est même plus ou moins imminente. Donc deuxièmement, c'est ce que le pape François numéro 215, appelle le changement de paradigme. Le changement de paradigme, c'est-à-dire le changement de façon de voir les choses, le changement de schéma. Alors aujourd'hui, on a un langage numérique, je ne sais pas pourquoi, on parle de changer de logiciel. Je ne comprends pas pourquoi. Changer de logiciel, mais pas du tout. Nous ne sommes pas des ordinateurs. Non mais c'est grave. Vous voyez, faisons très attention à notre vocabulaire. C'est grave de dire ça. Ça veut dire que je suis une machine? C'est du Descartes, ça, c'est du Descartes, hein. L'homme, l'animal est une machine, vous voyez ce que ça a donné, hein, l'homme est une machine. J'étais très frappée d'entendre sur France Culture une émission avec le grand de Facebook. Et là, la journaliste qui l'interroge, ben, justement, lui demande ce qu'il pense de l'homme. Il dit, ben, l'homme c'est une machine. L'homme c'est une machine. Et ça doit vous faire sauter d'autres chaînes, ça. Non? Et c'est gravissime. Et ça lui pose aucun problème. Il y a des pièces à changer, on les change. Et on aboutit au transhumanisme. Et on va vivre, on va être immortel, ça va être super. Ça va être super, on n'aura que des petits morceaux. Des boulons, des vis et des tas de trucs et des puces. Ça va être hyper intéressant, passionnant cette vie-là. Hein, ça vous intéresse, hein? Eh bien, pas moi. Donc, changement de paradigme. Changement de paradigme. Et il dit, eh bien, c'est quoi le nouveau paradigme? C'est le paradigme évangélique 216. Il faut opter pour ça. Et si on est chrétien, c'est une option, on n'a pas le choix. Hein? On n'a pas le choix.
C'est pas une option.
Ce n'est pas une option. Bon, sinon, on n'est pas chrétien.
Tu as dit
216. Il dit qu'il faut sortir du désert intérieur. Hein? C'est numéro 217. Il dit que nous sommes superficiels, nous avons une vie superficielle, numéro 212. Ah, il nous remet en place. Hein? Il nous remet en place. Hein? Alors, il dit qu'il y a la nécessité d'une mystique à la base de tout changement. On ne peut pas parler d'écologie quand on est chrétien s'il n'y a pas de mystique à la base de cette écologie. Et on n'arrêtera pas de faire couler l'eau du robinet inutilement s'il n'y a pas de mystique. Hein, ce n'est pas la peine de mettre des containers à déchets différemment. Ça ne sert à rien s'il n'y a pas de mystique. Si on n'a pas une vie spirituelle, au bout d'un moment, on en aura marre et on mettra tout dans la même poubelle. D'accord? Sauf si on doit avoir des amendes. Ah, on aura la peur de l'amende. C'est toujours la peur du gendarme, peur de quelque chose qui nous fait changer. C'est ça qui est grave. En tant que chrétien, c'est pas la peur qui doit nous faire changer. C'est la foi, c'est l'amour qui doit nous faire changer. Hein? D'accord? Donc, et il dit au numéro 209, il faut faire un saut dans le mystère. Un saut. Mais on n'aime pas faire des sauts. Enfin, il y en a qui font du saut à l'élastique, ça, d'accord. Mais il n'y en a quand même pas beaucoup. On ne fait pas tous du saut à l'élastique. On n'aime pas trop. On n'aime pas trop. On a peur. On a de plus en plus peur. Alors là, on est au summum là, de la peur aujourd'hui. Hein. Donc une spiritualité, mais une spiritualité qui ne soit pas éthérée. On n'est pas des anges. On a un corps. On est créé sur une terre. On n'a pas des petites ailes. Hein. Donc une spiritualité qui n'est pas déconnectée de tout ce qui vit, de la matière, de notre corps, du corps des autres, de la nature, des réalités du monde, de toutes les réalités du monde qui font notre vie quotidienne. Pas déconnecté de tout ça. Sinon, on fait de l'angélisme. Et ça, c'est pas être chrétien. Enfin, quand même, nous sommes la religion de l'incarnation. Dieu est venu s'incarner. Il faut rien mépriser de ce qui est humain. Au contraire, ça a donné une dignité immense parce qu'on l'avait perdu avec le péché. Racine. D'accord? Donc, comment on va réaliser ce changement qui est au niveau de l'être? D'abord. Et alors il dit, c'est très beau. Et ça, c'est central. Si vous retenez que ça, la journée, elle est réussie. Numéro 217. Comment réaliser ce changement, cette conversion? Eh bien, en laissant jaillir toutes les conséquences de notre rencontre avec le Christ sur ce qui nous entoure. C'est ça qui va tout changer. Si j'ai rencontré le Seigneur, tout est changé. Mais il faut que je le rencontre. Alors voilà, question, est-ce que je l'ai rencontré? C'est d'abord mon cœur qui doit changer. Alors mes habitudes changeront. Et si je commence par changer mes habitudes maintenant, sans changer mon cœur, ça ne tiendra pas. Il le dit, ça ne tiendra pas. Il me dit, il n'y a que la spiritualité qui peut me motiver. Numéro 216. Il n'y a que la spiritualité. Et c'est pour ça, dans tous les discours écologiques d'aujourd'hui, il manque ça. Il manque le moteur. Alors, on agite le moteur de la peur. Mais ça ne suffit pas. Donc, troisièmement, là, on était dans l'être. Et là, maintenant, on va être dans le faire. Et ça vient qu'après le faire. Hein? Alors qu'aujourd'hui, on n'est que dans le faire. Que dans le faire, que dans le faire. Donc avant de trier les poubelles, changement de paradigme. Et ensuite, changement de style de vie. Je trouve ça une belle façon de dire que je dois changer de style, changer de look. Mais pas uniquement la façon de se voir, hein, mais tout doit changer. Tout ce que je fais, comment je vis les choses, tout doit changer. Changement de style de vie numéro 206. C'est quoi ce style de vie? Ben c'est un style de vie prophétique et contemplatif. On ne peut pas dissocier les deux. On ne peut pas dissocier les deux. Prophétique de quoi? Eh bien du monde à venir. Du monde à venir. C'est ça qui est hyper dynamisant dans ce que dit le pape François. Hein, c'est que ça ne va pas du tout. Okay, hein, tout le monde est malade, tout est malade. Mais tout est possible. Un autre monde est possible. Il faut s'y mettre, c'est tout. Hein. Et un autre monde qui est le monde que Dieu a voulu. Mais il faut se reconnecter à la source. Donc un style de vie prophétique du monde à venir est contemplatif. Parce que je vais voir Dieu dans tout ce qui est. Et parce que je vois Dieu dans tout ce qui est, ben ça change ma façon de voir ce qui est. Si un pissenlit n'est qu'un pissenlit, ben je vais le manger en salade et puis c'est tout. Mais s'il y a un petit logos dedans qui me dit qui il est et pourquoi il est là, si ça me dit c'est une parole de Dieu pour toi aussi, tu mangeras de la salade de pissenlit, ça change tout. Ça change tout. Je ne vais pas mettre la main sur le pissenlit, je vais accueillir le pissenlit qui m'est donné comme une bonne salade. Vous voyez que ça change tout. Hein? Donc, un style de vie prophétique et contemplatif, et alors, qu'il pape François dit aussi, un style de vie qui donne envie de vivre. Moi, quand j'ai lu ça, eh ben, ça m'a remué l'estomac. de lire qu'on a besoin d'avoir envie de vivre. Vous vous rendez compte à quel point on est dans une culture de mort et dans un monde de mort, et à quel point on est mort, on n'est pas seulement malade, mais on est déjà mort. Hein ? Un style de vie qui donne envie de vivre. Non seulement qui nous donne envie de vivre, mais qui donne aux autres envie de vivre. Et c'est en les voyant, alors c'est là qu'on devient prophète. Ah, ça te fait vivre, ça, la sobriété heureuse. Ça te fait vivre. Ah ouais, et ça te rend heureux. Alors là, ça m'interpelle. Alors, dis-moi comment tu fais. Pourquoi tu le fais? Qu'est-ce qui fait que tu vis comme ça? Et voilà, et là, on est prophète. On est appelé à être prophète. On doit être les nouveaux Jérémie, les nouveaux Isaïe, les nouveaux Jean-Baptiste. C'est nous. On ne va pas attendre des évêques qui ont beaucoup de choses à faire. Hein? La place des laïcs, tout le temps en train de parler de la place des laïcs, c'est pas de prendre la place du curé. C'est d'être prophète. Et puis après, on va dire, ça sert, on y arrive tout de suite. Donc, donne envie de vivre. Hein. On est toujours dans le plus. Il faut toujours plus. Et le pape dit, eh bien, moi je vous dis, moins est plus. Moins est plus. Ça c'est excellent. On peut écrire ça en gros partout. Moins est plus.
Moins égale plus.
Déjà que...
Moins par moins, ça fait.
Moins par moins, ça fait plus. Ça, c'est excellent. Et il dit, mais attention, la norme constante et suprême de l'action, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est le numéro 231. C'est l'amour.
La norme constante.
Il dit la norme constante, constante, hein. C'est pas 3 minutes, hein. C'est constant et suprême. Suprême, c'est l'amour. Et donc ce changement de style de vie, c'est quoi aussi? Eh bien, il va s'agir d'entrer dans un autre rapport au temps. Un autre rapport au temps, un autre rapport à l'être, un autre rapport à l'avoir. Un autre rapport à Dieu, un autre rapport à la création, un autre rapport aux autres et un autre rapport à moi-même. Donc il y a du boulot, hein. Alors un autre rapport au temps, par exemple. Eh bien ça va être de vivre le moment présent. Alors ça c'est un scoop, non? C'est un scoop. Je suis toujours dans après, après, après. Qu'est-ce qu'il y a après? Qu'est-ce que je fais après? Ou alors, quand on prend l'âge, ah, avant c'était mieux. Avant c'était mieux. Hein? Mais là maintenant, il n'y a pas quelque chose de beau à vivre. Non, quand même, c'est chouette. Hein? Il fait super beau. On est ensemble. Hein? On se nourrit d'un bel enseignement que nous donne le pape François. Ça, c'est un beau moment. Alors après, on s'en fiche. Et avant, on s'en fiche. Ok? Donc 225-226, le moment présent. Et il dit, il faut s'arrêter. Il faut s'asseoir, il faut s'arrêter. S'arrêter pour quoi faire? S'arrêter pour quoi faire? Pour s'émerveiller. S'émerveiller. Pour apprécier. Pour rendre hommage à la vie. Numéro 207, rendre hommage à la vie. Ça, c'est beau aussi, entrer dans cette attitude de gratitude, de louange. Et il parlera du dimanche au numéro 237, en disant il faut vivre le dimanche. Il ne s'agit pas de respecter le dimanche parce que c'est une loi. Non, pas là-dedans. Non. Arrête-toi. Moi, je me suis arrêtée le septième jour. J'ai dormi le septième jour et je t'ai dit, mets-toi au boulot, maintenant c'est à toi. Et moi, je me suis arrêtée pour contempler ce que tu allais faire. Évidemment, tu as fait des bêtises. Hein? Mais c'est ça le septième jour, le Shabbat de Dieu, le Shabbat de l'homme. Ben, Dieu s'est arrêté pour regarder ce que l'homme avait fait. Il cultive les gars et garde le jardin. Je vais regarder comment tu fais et je vais m'émerveiller. Et nous, le septième jour, il nous est donné pour nous émerveiller de ce que Dieu a fait pour nous. C'est ça, vivre le Shabbat chez les Juifs, c'est ça. Et nous, c'est le dimanche. Et nous, en plus, c'est le huitième, parce qu'il y a une recréation qui est déjà commencée avec la Passion-Résurrection. Ben, ça va être nous émerveiller de tout ça. Ça ne va pas être d'aller à la messe parce qu'il faut aller à la messe. Il ne faut plus aller à la messe si c'est comme ça. Parce que moi, s'il est ennuyé et on n'y comprend rien. Ben, vous allez voir ce qu'il dit sur l'Eucharistie, ça va être magnifique, ça change tout. Hein? Donc, nous arrêter. pour apprécier, admirer, etc. Vive le dimanche. Et alors il dit, entendre les mots d'amour de la nature. S'arrêter pour entendre les mots d'amour de la nature. Le pissenlit nous dit des mots d'amour. Ça vaut le coup de s'arrêter quand même pour essayer de le vivre, non?
Et la tempête de neige.
Et puis
la tempête de neige et les invasions mystiques.
Mais oui aussi. Écoutez. Alors ça, ce serait tout un sujet, hein, Marie-Hélène. Hein. Mais là, il faudrait y passer une journée entière ou deux même, hein, sur toutes ces questions-là, justement. Mais donc un autre rapport à l'être. À l'être. À qui je suis. Eh bien, ça va être d'entrer dans une attitude, un mot qu'on n'aime pas, humilité. Humilité. Ouh, que j'aime pas. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire humus. Humus. Ça veut dire humour. Me prendre avec humour. Je ne suis qu'un petit homme. Mais je suis voulu par Dieu, créé par Dieu. Et ça change tout. Et ça donne du bonheur à être tout petit. Hein? Il va parler de Sainte Thérèse à un moment donné, d'ailleurs, le pape François. Avoir de la joie, être tout petit. Elle, c'est sa grande découverte. La petite voix, c'est quoi, c'est ça? C'est voilà, être la plus petite possible. Voilà. Parce que alors, je vais être aimée par Dieu, protégée par Dieu, couvée par Dieu. Plus je suis petite, et plus Dieu va s'occuper de moi. Ben, dis donc, il y a du travail avant d'entrer dans cette pensée-là. Hein? Humilité, parce que je suis sortie de la terre. Je suis de la terre. Améliorée, ok, d'accord. Hein? Mais je suis de la terre. Ah, pour qui je me prends? Pour qui je me prends? Supérieur à qui, à quoi? Mais non. Donc accepter de dépendre. De dépendre. Numéro 224. Accepter d'être nu. Adam, il a peur. Adam et Ève, ils ont peur. Hein, tout de suite, ils vont se faire des petits pagnes. Peur d'être nu. Cesser de jouer à Dieu, de faire le Dieu. Bon. Un autre rapport à l'avoir. Ça va être la sobriété. Une sobriété qui rend heureux, qui libère, numéro 223. Je pense qu'il serait très copain avec Pierre Rabhi, le pape François. Il dit, eh bien, ça va être de jouir avec peu. Et nous, on n'est pas là-dedans, il faut toujours plus. Parce que plus on va avoir, plus on va être heureux. Mensonge, illusion. Savoir apprécier les plaisirs simples, au lieu de picorer tout le temps, par-ci, par-là. En cherchant toujours parce qu'on n'a pas. Ça, on va toujours trouver. Toujours trouver. On n'a sûrement pas le yacht des milliardaires, n'est-ce pas? Cesser de picorer, s'arrêter et jouir de ce qui est là. C'est toute une philosophie de la vie. Hein, et apprécier l'ordinaire, la vie quotidienne. Alors, je trouve ça beau, en fait, que on ne parle plus trop du temps ordinaire. C'est dommage, peut-être, hein, le verre du temps ordinaire. Alors, maintenant, on va parler du temps de l'Église. Mais pourquoi on ne garde pas le temps ordinaire? Parce qu'on est fait pour le temps ordinaire. Puis, de temps en temps, il y a des grandes fêtes. Mais le temps ordinaire, c'est le temps de l'homme, de l'humain, qui a une vie quotidienne à vivre, et qui est faite de choses simples. Tous les jours, on fait des choses simples. De temps en temps, il y a un petit ultra, un petit extra. Sinon, on est fait pour les choses simples. Jésus, il a passé 30 ans à Nazareth, à faire quoi? À tailler des planches, à faire la conversation avec papa, maman et les voisins. Il n'y a rien de plus simple. Aller chercher l'eau à la fontaine, il n'y a rien de plus simple. Aller traire la chèvre qui était dans la cour, il n'y a rien de plus simple. Il a passé 30 ans. C'est du temps perdu, ça? Non, ça dit quelque chose de notre nature humaine, de ce qu'on a à vivre. Et pourquoi ce serait pas beau, l'ordinaire? Pourquoi il faudrait tout le temps aller à Disneyland et au parc Astérix? Pourquoi? Ah, maintenant, on va sur la Lune, enfin, sur Mars, hein, on va aller sur Mars. Mais pourquoi?
Ouais, du coup, les évangiles, on parle pas plus de ces 30 ans de vie ordinaire de Jésus.
Parce que c'est à nous de les vivre et c'est à nous de les creuser et de les contempler. y a un grand mystère là, à cette vie à Nazareth. Nous, on a la chance d'avoir ce charisme-là pour notre communauté. C'est une joie profonde d'être dans le simple, de jouir du simple. Une rencontre, un rayon de soleil, une tomate qui rougit, enfin. Ben voilà, tout ça, un chevreau qui naît, enfin, c'est du bonheur à longueur de temps et à longueur de journée. Jésus, il a été heureux, Nazareth, hein. Nous, on se dit qu'est-ce qu'il a dû s'embêter vivement qu'il commence la vie publique. Mais pas du tout. Enfin, je crois pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, il n'est pas pressé, hein, d'aller vers l'heure du Père, hein. C'est Marie qui est obligée de lui dire, allez, quand même, fais quelque chose. Il n'y a plus besoin de faire quelque chose, t'es là pour ça. Enfin, mais mon heure n'est pas encore venue, il n'est pas pressé, hein. Nous, on est pressé, tout le temps pressé. Donc, apprécier l'ordinaire, les rencontres, les services rendus ou donnés. Apprécier les services. Apprécier la musique, apprécier l'art, apprécier la prière, apprécier le contact avec la nature. Il va... C'est du concret, ça, hein. C'est du concret. Alors, un autre rapport aux frères. Aux frères. Nous avons tous un même père. Un même père. Ça doit changer quelque chose dans ma façon d'être en relation avec les autres. Nous sommes tous frères. 228, numéro 228. Personne n'est supérieur à l'autre. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Et du coup, si j'entre dans une relation de fraternité... D'ailleurs, il vient de sortir une nouvelle encyclique sur la fraternité. Vous êtes au courant, hein? Eh bien, je vais découvrir la gratuité. Il y a de moins en moins de choses gratuites. Le bénévolat, il est interdit dans plein de domaines. Mais pourquoi? Ben ça finit par ôter du cœur la possibilité de la gratuité du bénévolat. On ne va même plus savoir ce que c'est. Hein? Alors que ça donne une immense joie, la gratuité. En fait, quand je donne quelque chose de... Quand je suis dans la gratuité, je reçois plus que quand je donne, en fait. C'est la joie de voir la joie de l'autre. Est-ce qu'on peut redécouvrir tout ça? Et puis ça va être de faire avec l'autre. Ça, c'est, je ne suis pas tout seul. J'ai besoin de l'autre, l'autre a besoin de moi. Et la joie de faire ensemble. Parce que le pape François dit que cette conversion, elle doit être personnelle, mais elle doit être communautaire. Parce que s'il n'y a que un par-ci, un par-là, on n'ira pas très loin. Tandis que si on s'y met tous ensemble, hein, le collectif de l'éco-spiritualité au service de l'écologie, là, ça va être efficace. Conversion communautaire, numéro 219. Alors, un autre rapport avec la nature. Bon, ben, ça va être d'abord une reconnexion. Pierre Rabhi parle beaucoup de cette reconnexion. De se dire que c'est une création. Je ne suis pas dans l'utilitaire. Ne plus être dans l'utilitaire par rapport à tout ce qui se fait. Parce qu'on est dans l'utilitaire aussi par rapport les uns aux autres. Hein. À quoi il va pouvoir me servir celui-là? Qu'est-ce qu'il va... Hein, non. Donc, un autre rapport avec ce qui est créé, ce qui m'entoure, ce qui m'est donné et ce envers quoi j'ai une responsabilité. Parce que j'ai une responsabilité, parce qu'il m'est demandé de cultiver et de garder. J'ai une responsabilité. Et puis, se dire que la nature, elle contient un message de la part de Dieu. Numéro 220. Chaque être vivant contient un message de la part de Dieu. Entrer dans une culture de protection. Prendre soin. Prendre soin, c'était le discours inaugural du pontificat de... Ça m'avait beaucoup frappé. Du pape François, prendre soin. Il avait pris l'image de Saint Joseph. Hein. Saint Joseph, dont on n'entend pas un mot, mais il est efficace. Hein. Prends soin de l'enfant et de sa mère. Prends soin. Une culture de protection. 151, 231, 229, 143. Et je vous disais, ça va même jusqu'à prendre soin du patrimoine. Ça va jusque-là. Ça va être prendre soin de l'habitat, ça va être prendre soin de... C'est énorme. Et puis un autre rapport avec soi-même. Ça va être de devenir moi, pas de devenir un autre. On veut toujours être... être quelqu'un d'autre que soi. On est dans le culte de l'apparence, numéro 225. Hein. Alors qu'il y a, j'ai une identité propre. Qu'est-ce qui me spécifie, moi, numéro 220 ? Cultiver sa propre identité. Voilà. Pour terminer le dernier chapitre, ça va encore ? Oui ? Oui ?
Moi, j'ai pas noté les références de convention de la nature.
Alors, je reprends Marie-Hélène. La culture de protection, ça va même au-delà de la nature. Oui, hein. 151, 231, 229, 143. Et puis, il y en a sûrement d'autres. Okay. Alors, dernier chapitre que j'ai appelé eschatologie. Parce que la fin des temps, c'est pas pour maintenant.
Ça veut dire quoi, eschatologie ?
On va vers quelque chose d'autre. C'est ce qui va nous dépasser, c'est ce qui nous attend. Hein, c'est ce qui est au-delà. Et c'est vers, et c'est le but, c'est vers ce quoi on marche aussi. Mais attention, j'ai lu aussi quelque part où on dit que les chrétiens, ils vivent sur cette terre comme s'ils étaient de passage, et du coup, ils ne s'y intéressent pas. Hein, parce qu'ils sont déjà dans le monde à venir. Ben ça, c'est... Alors, peut-être que ça a été un peu vrai, ça aussi. On a beaucoup parlé d'exil, comme si on était sur cette terre en exil, hein, par exemple. Hein. Ça a été, c'est tout le 19e siècle. Il y a un petit quelque chose de vrai, mais ce n'est pas non plus complètement vrai, parce que je suis fait pour cette terre-là, et je dois trouver mon bonheur sur cette terre-là. Et sur cette terre-là, je dois aussi préparer et attendre la patrie des cieux, d'accord. Mais je dois vivre complètement en tant qu'homme, en tant que chrétien, et donner tout de moi-même pour cette terre, et faire en sorte qu'elle soit la plus vivable possible, la plus heureuse possible, aussi pour les autres. Hein, donc ce n'est pas juste de n'être là qu'en passant comme des anges. Ça, ce n'est pas juste. Cette notion d'exil, attention. Hein. Il y a une déviance quelque part. Donc, c'est le but de la création. Le but de la création, c'est la transfiguration. Alors ça, nous, dans notre Église latine, on n'en parle pas beaucoup non plus. C'est la transfiguration. Et donc, c'est tout notre regard sur tout le créé qui est changé par cette notion de transfiguration. C'est parce que c'est toute la création qui est appelée à la transfiguration. Romains 8, hein, on a vu ça tout à l'heure, saint Paul dit que la création est en souffrance, hein, elle est en travail d'enfantement, elle attend ce pourquoi elle est créée. Et la création, ce n'est pas ce qui m'entoure, la création, c'est tout ce qui est vivant. La création, c'est vous, c'est nous. Et moi, on fait partie de la création. Hein. Quand on dit la création, c'est tout sauf moi. Mais pas du tout. Pas du tout. Ça va aller, vous avez le soleil dans l'œil, là. Hein. Vous êtes en train de cuire. Non ? Tu as bien cuit ?
Ça y est, changé de face.
Ça va aller quand même ? Sinon, on peut se pousser à l'ombre, là, non ? Ça va aller ? Émilie ? Marie-Hélène ? Vous n'êtes pas encore complètement cramée ? Charlotte, ça va ?
Ça bon. Va.
Ok.
Je vais cramer le tout.
Donc la création, tout ce qui est créé a une origine en Dieu et a aussi un but. Et le but, c'est le retour en Dieu. Nous sommes faits pour aller vers Dieu, pour être transfigurés, pour être divinisés, pour partager la vie et la gloire de Dieu. Et qu'est-ce qui nous aide, c'est ce qui nous permet de commencer à vivre ça, eh bien c'est la liturgie. Et les orthodoxes sont très, très forts là-dedans. Ils disent, je vais vous lire une citation d'un théologien orthodoxe, je ne dis pas le nom, c'est pas la peine, hein, dit que le monde a été créé comme la matière le matériau d'une Eucharistie universelle. Et l'homme a été créé prêtre de ce sacrement cosmique. Alors là, ça va pour terminer là, un petit peu en plein soleil, en fin d'enseignement, tout va bien. Je vous redis cette phrase parce qu'elle est magnifique. Il dit, le monde a été créé comme la matière, le matériau d'une Eucharistie universelle. Et l'homme a été créé prêtre de ce sacrement cosmique. Alors c'est le pape François qui va parler de l'Eucharistie dans ce sens-là. Alors ce sera tout le chapitre, ce sera 235, 236, là vous verrez tout ce qu'il écrit au propos de l'Eucharistie.
Là, c'est une citation de...
Ça, c'est un théologien orthodoxe. Alexandre Lehmann, si tu veux.
Non,
c'est peut-être pas la peine. C'est peut-être
pas
la peine.
Comme le matériau... Moi, j'ai pas
tu veux que je relise la phrase, oui, Marie-Hélène ? Je redis. Le monde a été créé comme la matière. La matière. Le matériau. La matière et le matériau, c'est pas tout à fait la même chose. Le matériau d'une Eucharistie universelle. Alors, on aurait pu aussi s'intéresser à Pierre Teilhard de Chardin, mais on n'a pas le temps, parce que ça aussi, c'est passionnant. Passionnant, on n'a pas le temps. Hein. On ne peut pas tout faire. On ne va pas tout dire. L'homme a été créé le prêtre de ce sacrement cosmique. Parce que le pape François va parler de l'Eucharistie, va parler de la liturgie, va parler des sacrements. Dans les sacrements, Dieu se sert de la nature pour nous donner la vie de la grâce. Il se sert de l'eau, il se sert de l'huile, des mains du prêtre. Du pain et du vin d'une manière excellente et suprême. Et je me dis là, on a un travail à faire. Hein, on a un travail à faire pour vivre autrement notre liturgie. Redonner sens au rite. Donc c'est la liturgie qui nous permet de recevoir la vie de la grâce et donc de rencontrer Dieu, de nourrir cette vie de la grâce qui est déposée en nous au baptême. Et cette liturgie, qui va emprunter tellement d'éléments naturels. C'est du tout simple, en fait, la liturgie. C'est du tout simple. Seulement, c'est pénétré par Dieu. C'est incroyable, ça. Donc, c'est à travers la liturgie, et finalement, c'est la liturgie qui nous parle de notre devenir dans l'au-delà, dans l'eschatologie. Nous sommes appelés à être divinisés comme le pain et le vin qui deviennent corps et sang du Christ. Non mais écoutez, ça c'est incroyable. Se dire que Dieu a choisi des éléments complètement simples, le pain, le vin, pour se donner en nourriture, nous donner son corps et son sang. Qu'est-ce que ça veut dire de notre propre corps et de notre propre sang? Vous voyez, quand on parle d'Eucharistie universelle, d'Eucharistie cosmique, on est déjà là-dedans. On est appelé à ça. Hein, l'Eucharistie nous prépare à nourrir en nous cette vie divine parce que c'est ce que nous allons devenir. Nous nourrir du corps glorieux du Christ. Je ne sais pas si... De temps en temps, on a besoin de s'arrêter. De s'arrêter à ça. Hein, parce qu'on communie, on va à la messe, ben, parce qu'il faut y aller, ou parce que quand même on se dit, ben, je vais me nourrir du Christ, et puis une fois qu'on a communié, tout est oublié, on est parti ailleurs, dans le repas préparé pour ce midi, ou dans les voisins invités, ou je sais pas quoi, on est déjà parti ailleurs. On a besoin de temps en temps de s'arrêter pour se dire, qu'est-ce que je vais vivre demain, dimanche, hein. On a cette chance-là d'être là ensemble pour essayer de mieux vivre un petit peu la communion de demain. L'Eucharistie, c'est la matière qui est divinisée. Et à travers cette matière divinisée, eh bien, le pape dit que c'est tout le cosmos qui rend grâce à Dieu. Parce que c'est de la matière. Parce que le cosmos, c'est de la matière. parce que tout est lié. Et à partir du moment où il y a la matière, toutes les matières sont liées. C'est clair ce que je dis ? Et la divinisation, c'est quoi ? La divinisation, c'est quoi ? Ben, il faut aller lire le chapitre 21 de l'Apocalypse. Ce sont les noces mystiques de Dieu avec l'homme, avec notre nature humaine. C'est ce à quoi nous sommes appelés. Qu'est-ce qu'on fera là-haut ? On s'ennuiera. Ben, je ne sais pas si on s'ennuiera, je ne crois pas. Mais on est appelé à vivre des noces mystiques. C'est ça la divinisation. Ces noces, eh bien, c'est déjà dans la communion eucharistique, qu'on en a des prémices, un avant-goût. Le métropolite Jean de Pergame, il dit « L'Eucharistie est le meilleur antidote à la crise écologique que le christianisme peut offrir au monde aujourd'hui. » Vous entendez ça ? Vous voulez que je relise ça ? Hein ? Ah ben ça, c'est fort. L'Eucharistie est le meilleur antidote à la crise écologique que le christianisme peut offrir au monde aujourd'hui. Pourquoi ? Ben parce que ça dit ce que le monde peut et doit devenir.
Encore, s'il te plaît.
Ah oui, tant que vous voulez. L'Eucharistie. Et l'Eucharistie... pas simplement au sens du sacrement, mais l'Eucharistie au sens d'Eucharistie universelle, c'est-à-dire d'action de grâce universelle, d'offertoire universel, c'est-à-dire où nous offrons et où nous rendons grâce par notre style de vie. Vous voyez ? Avoir un style de vie eucharistique, c'est ça que ça veut dire. Hein ? C'est en ce sens-là que ça change, parce que ça change ma façon de regarder tout être vivant, tout ce qui est là. Avoir un regard eucharistique, une attitude eucharistique. Et du coup, je rentre dans l'action de grâce, dans la gratitude, dans l'émerveillement, dans l'adoration, dans la louange, et dans l'offrande, et dans la gratuité, etc., etc., etc. D'accord ? Et dans la protection. D'accord ? Qu'est-ce que je disais ? Je disais quoi ?
Il y aura un instant à la crise écologique.
Ah oui. Où est-ce que c'est ça ? Ah oui, l'Eucharistie est le meilleur antidote à la crise écologique que le christianisme peut offrir au monde aujourd'hui. Donc il s'agit de quoi ? Il s'agit de passer de l'homme économique, ce que nous sommes aujourd'hui, à l'homme eucharistique. C'est ça, finalement, le grand changement. Pour ça, une métanoïa, là, ça dit vraiment quelque chose de complètement nouveau. C'est pas seulement le fait de se retourner, c'est devenir nouveau, complètement nouveau, un autre être, celui que je suis appelé à devenir. C'est l'homme eucharistique. Et c'est ça le prêtre, le liturge, que notre sacerdoce baptismal nous appelle à être. Il n'y a pas que le curé, d'accord ? C'est ça être laïque, On veut prendre la place du curé, mais c'est pas ça être laïque. C'est beaucoup plus grand, c'est beaucoup plus... C'est autre chose. Laissons les prêtres faire leur travail de prêtre. Et nous faisons le nôtre, par contre. Et alors, je vais terminer. Ah oui, les pères de l'Église disent que qu'il nous faut adopter l'Eucharistie comme un mode d'être, une façon d'être. Alors, ce qu'on appelle un ethos, une façon d'être. Et ils disent que c'est ce qui définit par excellence l'image divine dans l'homme. Offrir et s'offrir. C'est ça qui fait que je ressemble à Dieu. C'est beau aussi ça. Je termine. Là, on est dans l'interreligieux. Je termine par une citation d'un rabbin, le rabbi Abraham Yaakov de Sedagora, d'accord ? Vous n'êtes pas obligé de recopier, mais je vous lis la phrase. Parce que elle est belle. Toutes les créatures, les plantes et les animaux se présentent et s'offrent à l'homme. C'est ce que fait Dieu. Il les présente à l'homme pour savoir comment il va les appeler. Vous vous rappelez. Celui-ci les présente et les offre à son tour à Dieu. C'est ce qui se passe à la messe. Quand donc l'homme se purifie et se sanctifie dans tous ses membres en s'offrant à Dieu, cette purification et sanctification s'étend à toutes les créatures. Point final. C'est beau, elle est belle cette phrase.
Voilà. Redire une dernière fois, s'il te plaît.
Ah, tu veux que je la redise la phrase? Juste pour le plaisir de l'entendre, peut-être, parce qu'elle est un petit peu longue. Toutes les créatures, les plantes et les animaux se présentent et s'offrent à l'homme. Celui-ci les présente et les offre à son tour à Dieu. Quand donc l'homme se purifie et se sanctifie dans tous ses membres en s'offrant à Dieu, cette purification et sanctification s'étend à toutes les créatures. Point. Connexion maximale. Donc, je vais préparer un petit travail pour ce temps de réflexion. Là, on a 1h15 avant le déjeuner, Marie-Lucie. Ok ? Donc, je vous ai mis plein de questions qui sont en lien avec tout ce qui vient d'être dit. Et puis cet après-midi, donc après le déjeuner, on prendra un temps de partage pour réfléchir ensemble, se dire ensemble ce qu'on peut se dire par rapport à tout ce petit travail. Voilà, et se nourrir les unes des autres.